Pas grave, c'est l'occasion de parler de l'état de la presse aujourd'hui avec une figure du journalisme, Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du quotidien Le Monde et fondateur du journal en ligne Mediapart. Une figure du journaliste, je vous disais, dont la moustache hante l'univers journalistique et politique. Bon, là, Claude Guéant lui cherche du suif, hein.
Oui,
bah oui,
on a
voilà,
vu
c'est
ça.
Comme ça, hein. Bon, d'ailleurs, en 1879, Guy de Maupassant écrivait dans Boule de Suif: ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût, aucun, aucun. Cela n'a plus de charme. Ce moelleux, ce poivre, oui, ce poivre du vrai baiser, la moustache en est le piment. Voilà, hein, cette réflexion sur les baisers amoureux par Guy de Maupassant peut s'appliquer au monde de la presse, où les moustaches de Monsieur Plenel apportent aussi les bienfaits du piment. Elles relèvent et donnent du piquant.
Eh bien, soit, auscultons la santé des médias français en compagnie ce soir du docteur Edwy Plenel, que voici.
Je voudrais vous présenter à vous, mesdames et messieurs de la presse et des médias, mes meilleurs vœux pour 2011. Une année riche d'actualité, mais également, je le souhaite pour vous, riche de bonheur et de succès. Intervention de Monsieur le Président de la République, conférence de presse du lundi 24 janvier 2011. Bonsoir, bonsoir, amis auditeurs du 5-7 Boulevard.
Edwy Plenel, bonsoir, merci d'être là et bienvenue chez nous.
Bienvenue et je me régale, merci à vous.
Eh ben non mais voilà, merci d'être là parce que vous venez de nous lire un extrait de l'intervention de Nicolas Sarkozy.
À votre demande, je suis obéissant.
Oui. Oh c'est rigolo. Et bon alors, dites-nous Edwy Plenel, est-ce que vous y étiez à cette conférence de presse?
Non, j'ai pas reçu d'invitation, mais elle a été convoquée un peu rapidement puisqu'il a tout mélangé, les diplomates, les journalistes, etc. Alors on a suivi ça en direct sur nos écrans et ça ne nous a pas empêché de la commenter.
Alors vous n'y étiez pas, il y avait, cela dit, beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde de la presse, de l'audiovisuel, de la télévision évidemment, et de la presse écrite également. Vous venez de nous dire que vous l'avez regardé, quel regard vous avez porté sur cet exercice lundi dernier, Edwy Plenel?
Un président rikiki, une France rétrécie, ridicule et impuissante.
Ah ouais, mais d'accord, après vous allez vous plaindre que il vous charge des noises.
Non
mais
je me plains jamais. Quand on donne des coups, il faut accepter d'en recevoir. Je me bats pour tout ce que vous avez dit là tout depuis le début.
Non mais voilà, c'est intéressant, on va dire qu'on partage un peu les mêmes valeurs là-dessus. Alors justement, c'était l'occasion de cette conférence de presse du président de la République de faire un petit bilan de la presse. Il devait y avoir plein de patrons de presse justement. D'après vous, est-ce qu'ils étaient fiers de leur statut de patron de presse, d'une presse qui fonctionne très bien, où tout va bien, ou est-ce que bon, ils étaient un peu fragilisés?
Si on parle surtout de la presse quotidienne, ça va bien mal, ça va même très mal. Elle était malade il y a 2 ans quand les états généraux présidentiels que nous avons boycottés, condamnés, critiqués ont été organisés. Ils ont mis plein d'argent et aujourd'hui, c'est pas qu'elle va mal, c'est qu'elle est presque moribonde, dans une situation de dépendance qui fait que beaucoup de requins s'approchent. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec nos métiers, qui n'ont rien à voir avec ce que c'est que produire des informations, qui viennent instrumentaliser tout ça. Regardez, même au Figaro, il y avait un gestionnaire qui était un bon professionnel, Monsieur François Morel, il se fait virer. Pourquoi? Parce que il aurait refusé le licenciement d'un journaliste qui déplaisait. Donc, vous savez, vous avez cité Maupassant et ça m'a bien plu. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, un roman, Bel Ami, de Maupassant. Ce roman est un roman sur la corruption de la République. Et vous savez quel est le héros? Le héros, c'est un journaliste. C'est-à-dire que si le journalisme se laisse corrompre, perdre son autonomie, oublier le rapport de confiance avec le lecteur, s'il ne se bat pas pour son indépendance, c'est la République qui elle-même est abaissée et corrompue. Donc ces conférences de presse où tout est contrôlé, où il n'y a pas de vrai rituel démocratique, qui sont, comme vous l'avez dit, si peu fréquentes, ce sont des grands messes inutiles, c'est sa mise en scène. Donc on la regarde comme on regarderait un spectacle et on en fait la critique. Sur le fond, je le maintiens, c'est la mise en scène de son impuissance, de la façon dont toute sa politique lui a échappé. C'est pas seulement que c'est une politique que je trouve désastreuse, mais elle est menée comme de manière gribouille, de manière confuse, de manière maladroite. L'histoire de la Tunisie, tout le monde l'a vu, le démontre.
Alors, Edouard Plenel, pour nous qui avons 35 ans, quand on a commencé à être étudiant, on lisait Le Monde, vous étiez une figure de la presse écrite, avec des grandes affaires, le Rainbow Warrior, les Irlandais de Vincennes. Vous étiez même à une époque un peu plus récente patron de la direction du Monde, donc la presse écrite, le journal, le support. Et puis, pour ceux qui l'auraient manqué, je pense pas qu'ils sont si nombreux que ça, mais vous avez créé, il y a 3 ans maintenant, un site internet d'information, Mediapart. Alors, pourquoi est-ce que vous avez quitté ce support pour rejoindre ce support internet? Pourquoi ne pas être resté dans la presse écrite? Quel est l'intérêt de ce site?
Il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est que je pense que ce qu'on vit avec le numérique, hein, dans tous nos métiers, c'est une révolution industrielle. C'est la troisième, hein, c'est la même chose que la machine à vapeur, l'électricité. Et que donc, c'est pas pour ou contre le numérique. Le numérique est au cœur de nos métiers. Et puis l'autre raison, c'est la crise d'indépendance de la presse quotidienne en France. J'ai vécu la crise du Monde, qui est une crise d'indépendance. Et quand j'ai quitté, j'ai dit à la rédaction du Monde, vous allez voir, vous n'êtes pas d'accord. J'ai eu 35% de la rédaction avec moi lors du dernier vote. Et je leur ai dit, vous serez vendus, finalement. Et c'est ce qui est arrivé 5 ans après. Et j'ai vécu la crise de Libération, où j'ai refusé de céder sur les droits de la rédaction. Et regardez la suite aujourd'hui. Et donc, on s'est retrouvé à une équipe, Laurent Mauduit, votre homonyme, François Bonnet, et on s'est dit, bon, bah, il faut montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Quand ce métier est en crise, il faut montrer que notre travail, purement notre travail, l'information, son indépendance, sa qualité, son audace, sa vigueur et la participation des lecteurs, car le numérique nous permet de retrouver ça, ils sont là, ils nous interpellent, ils nous discutent, eh bien ça permet de créer de la valeur. Notre travail peut créer de la richesse, des emplois, de l'indépendance, de la confiance auprès des lecteurs. Vous avez rappelé l'affaire Bettencourt, mais c'est pas seulement l'affaire Bettencourt, c'est tout ce que ça a créé comme dynamique. Et voilà, donc nous, on a voulu montrer ça. Souvent, on me dit, vous êtes donneur de leçons, voilà, parce que je suis un peu avec enthousiasme dans ce que je dis, mais c'est pas donner des leçons, c'est donner envie. C'est donner cette dynamique à tout le monde.
Alors justement, dans cette dynamique, on a envie de se demander comment fonctionne Mediapart, dans le sens où c'est un journal. C'est de l'écrit d'ailleurs, ça reste de l'écrit.
C'est aussi des vidéos, du son, mais c'est de l'écrit, c'est une écriture.
Ça fonctionne comment, la fabrication d'un journal sur le net par rapport à un journal papier? C'est-à-dire, c'est la même chose, la rotative en moins?
Non, c'est pas du tout la même chose. Il y a 2 différences. Pour la rédaction, il y a une horizontalité. Chacun est beaucoup plus autonome, beaucoup plus responsable de ce qu'il fait. Et plus libéré de toutes sortes de contraintes. Parce que le numérique, qu'est-ce qu'on découvre? Cette évidence que nous nous adressons à des gens qui ont plein d'infos. Ils ont les chaînes d'infos en continu, ils ont tous les médias et toute l'information qui leur arrive, donc on doit se consacrer à l'essentiel. C'est impitoyable. Il faut faire quelque chose qui est une plus-value, qui apporte quelque chose. On ne peut pas être banal et être dans la répétition. Donc il y a ce côté beaucoup plus souple par rapport à ce gros paquebot que j'ai dirigé. Bon, j'ai été 15 ans journaliste de base au Monde, et pendant 10 ans, je me suis retrouvé avec une énorme machine. Et là, on est très souple. Et l'autre différence, c'est que le lecteur est là. On est descendu de l'estrade. On est obligé de l'écouter. C'est la radio qui, la première, a compris ça. Hein, avec le téléphone sonne, avec l'interpellation des lecteurs. Et donc, avec le numérique, alors ils sont là, ils bouillonnent. D'abord, ils nous disent, vous avez pas le monopole de l'opinion. Donc, il y a le club de Mediapart, tout abonné peut contribuer. Deuxièmement, ils nous disent, là, vous êtes en retard sur Wikileaks, ça va pas. Et ils nous engueulent. Troisièmement, ils discutent, ils rectifient, même les fautes d'orthographe quand on a tapé trop vite et du coup, on corrige. Et sincèrement, je vous le dis, mais c'est une seconde jeunesse pour moi. Parce que tout d'un coup...
On le sent dans votre énergie, dans votre volonté.
Alors, bien sûr que ça bouscule parfois. Bien sûr qu'il y a le numérique, il y a ses pathologies aussi. Il y a des gens qui sont seuls devant leur ordinateur et ils croient qu'ils sont dans un monde réel. Ce que nous découvrons avec Mediapart, ces médias participatifs, c'est que ce virtuel, c'est de la réalité. Nous faisons des réunions publiques. Vous savez que le 7 février, vous serez rentré de New York. Nous faisons au Théâtre de la Colline, nous faisons des lundis de Mediapart. Et là, nous faisons un lundi exceptionnel. Ça s'appelle comme ça, de Tunis à Paris, s'indigner, créer, résister. Soirée exceptionnelle autour de Stéphane Hessel et de ses amis Edgar Morin et Claude Alfandéry. 3 nonagénaires bien jeunes, et nous faisons venir de Tunis les porte-paroles de l'opposition, enfin de la révolution tunisienne dans leur diversité. Et donc nous ferons cette soirée-là, mais elle vient de la dynamique de notre journal. Vous savez que Mediapart, le seul pays où quelques semaines après notre sortie, nous étions inaccessibles, le seul pays du continent africain, du monde arabe, le seul pays, c'était la Tunisie. Pourquoi ? Parce que depuis le premier jour, Pierre Puchot, qui est le spécialiste, a fait les enquêtes sur la corruption. Tous ceux qui disent « on ne savait pas », mais j'ai envie de dire, M. Sarkozy et les autres, lisez un peu plus la presse indépendante. Vous savez, sur le fameux vendredi où il est parti, le jeudi soir, la manchette de Mediapart, car c'est comme une manchette, hein, le titre disait « Ben Ali, est-ce qu'il va partir ?» Le jeudi soir, donc le jour où leur ambassadeur, le lendemain, leur disait, vous savez, Ben Ali a les choses en main. Ben Mediapart leur disait autre chose.
Alors par ailleurs, Edoui Plenel, évidemment, vous êtes, les gens l'ont entendu, l'ont lu, vous êtes au cœur de pas mal de polémiques médiatico-politiques. Rappelons que c'est vous qui êtes à l'origine de l'affaire Woerth-Bettencourt, c'est le 16 juin dernier 2010.
Je dis souvent l'affaire Sarkozy, plus que l'affaire Woerth.
D'accord, ça c'est vous qui le dites, très bien. Et c'est vrai que ça a déclenché quelque chose d'assez fort pendant tout l'été, et puis on a aujourd'hui les rebond de tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, du gouvernement et d'autres, vous accusent notamment de ne pas avoir vérifié vos sources, ou alors d'exploiter des procédés qui, à leurs yeux, ne sont pas raisonnables, ou il y a des mots qui ont été employés même assez violents à votre égard. On a envie de dire, en fait, c'est un peu la même chose que le Rainbow Warrior, c'est la mouise, parce que vous remuez le truc. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que finalement, c'est vous accuser de pas faire votre boulot, de mal le faire, d'être un escroc quelque part. Comment vous réagissez à ces propos, Edoui Plenel?
Je réagis d'abord pour l'information des auditeurs, très factuellement. Bien sûr qu'on a fait notre travail.
Vous avez vérifié vos sources.
Mais non seulement on a vérifié, mais on a fait le tri. On avait ce matériau de 21h. On a regardé ce qui...
21h de quoi? Dites-le parce que...
21h d'enregistrement fait par ce maître d'hôtel dans la bataille interne, dans la maisonnée Bettencourt, pourrait-on dire. Et on a regardé qu'est-ce qui relevait de la vie privée. Et on a suivi ce qui est la ligne professionnelle d'un journaliste. Qu'est-ce qui est d'intérêt public? Nous, l'affaire Bagné-Bettencourt, l'affaire privée, intime, la fille, le photographe, Madame Bettencourt, ce n'est pas ça qui nous a intéressés. Et d'ailleurs, cette affaire, elle est close, ils se sont arrangés entre eux, c'est le même monde. Nous, on a découvert dans ces bandes la révélation de faits délictueux. La fraude fiscale, et nous avons été des bons citoyens, grâce à nous, l'État a gagné de l'argent. Nous avons découvert le conflit d'intérêts, nous avons découvert l'intervention auprès de la justice, nous avons découvert la question des financements politiques, illicites, bref, tout cela, c'est ça qu'on a mis sur la table. On nous a demandé des comptes, nous avons été devant un tribunal pendant le mois de juillet, on a dit, mais... Plenel, vous avez parlé des écoutes. Ah, il fait ce qu'on lui a fait. Non, moi, j'ai enregistré personne, d'abord. Et deuxièmement, dans un cas, c'est la vie privée. Là, j'ai été devant le tribunal. J'ai dit, mais monsieur le président, moi, tout ce qui concerne la vie privée, 20 heures, on l'a mis de côté. Regardez ce qu'on a mis sur la table. Ça concerne l'intérêt public, c'est légitime, ce sont des faits importants, ce sont des vieux débats, c'est les papiers du Pentagone qui ont révélé la guerre du Vietnam, c'est Wikileaks, on en parlera, c'est qu'est-ce qui est d'intérêt public, c'est ça le rôle du journaliste. Et comme vous le savez, en juillet, pendant cette polémique très violente, organisée depuis l'Élysée, j'y insiste, depuis le bureau de Monsieur Guéant, on a parlé de nos méthodes fascistes quand même, eh bien, en première instance, puis en appel... La justice française a dit les informations de Mediapart sont légitimes et d'intérêt public.
La donc, séparation des pouvoirs.
Mais voilà, et la justice a dit ils ont fait leur travail. Et donc c'est vraiment ça la réponse. Et par ailleurs, l'autre réponse, si vous voulez, c'est bien sûr qu'on dérange. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la morale du boxeur. Si on revendique de la fameuse formule porter la plume dans la plaie, donner des coups par nos révélations, elles ébranlent. Bien sûr qu'elles ébranlent. Donc faut accepter la critique. Moi, j'accepte qu'on nous conteste, mais qu'on nous conteste sans mettre en cause ce qui ne nous appartient pas à nous journalistes, mais aux citoyens, qui est ce droit à l'information. Qu'on n'ait pas le mépris de cette liberté-là. Qu'on n'ait pas le mépris de cette vitalité journalistique-là. Et voilà. Et donc, là, il y a un problème de culture démocratique chez nos hommes politiques. Hélas, l'inégalité des armes est telle. Vous savez, le secrétaire général de l'Élysée nous poursuit. Ça va être un grand procès politique, pourrait-on dire.
À l'automne, hein, c'est ça.
À l'automne. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai porté plainte contre Monsieur Xavier Bertrand, à l'époque patron de l'UMP, sur les méthodes fascistes. Mais
expression qu'il a employée à votre égard.
Bien sûr, mais je ne peux pas le poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il est au Conseil des ministres actuellement. Et donc, moi, je dois attendre. Donc, moi, on peut me poursuivre, mais moi, je ne peux pas poursuivent leur propre calomnie. Et donc, on est au cœur d'un enjeu que nous allons tous discuter d'ici 2012, quelles que soient les familles politiques. Vous l'avez rappelé, je n'ai pas été en arrière de la main quand la gauche était au pouvoir.
Non.
Qui est le problème de notre vitalité démocratique.
Alors justement, dans cette vitalité démocratique, en vous écoutant depuis tout à l'heure, on a senti votre énergie et votre joie de voir des médias participatifs, les gens qui prennent la parole. Et vous venez de nous dire qu'à côté de ça, nous avons des élites dirigeantes qui utilisent des mots très durs sur ces mêmes médias. Vous y voyez un symptôme assez triste du rapport entre le peuple et ses élites.
Oui, j'ai employé très tôt le thème oligarchie, qui est maintenant un peu banalisé, repris par Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai employé même en 2007, au moment de la campagne électorale. Je pense qu'on a un vrai problème et qui explique le succès de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel représente ses serviteurs de l'État, ambassadeurs, et ses élites, parce que élite, c'est pas en soi critiquable, ces élites produites par la démocratie et qui servent l'intérêt public. Et au fond, dans ce petit livre que j'ai apporté, indignez-vous, parce que j'en suis un des propagandistes zélés.
On a reçu Stéphane Hessel.
Il défend, voilà, il rappelle ces évidences qu'on est, voilà, des belles valeurs et des beaux principes qui sont ceux d'une république démocratique et sociale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Avec la financiarisation, avec toute cette perte du politique, nous avons les nouvelles élites se sont laissées corrompre, se sont laissées détacher du bien public, se sont passées du côté de la possession, avoir et pouvoir, accumuler du pouvoir, accumuler de l'avoir, de la richesse, du symbole, etc. Et elles ont oublié ce qui les légitime. C'est ça le sens de l'oligarchie. Et elles prétendent, d'où leur position sur le web et Internet, elles prétendent parler à notre place. Elles prétendent qu'elles sont les sachants. Et donc, pourquoi le web, ils le diabolisent? Pourquoi ils disent des bêtises, tout à l'égout de la démocratie, c'est la poubelle, c'est le lieu de la prostitution et de la mafia, enfin, etc. Pourquoi il suffit d'aller dans un kiosque, il y a plein d'autres choses, hein, dans un kiosque papier. Pourquoi ils disent ça sur le web? Parce que sur le web, il y a la vitalité démocratique. Alors, elle est excessive? Ben, c'est la vitalité d'un pays, c'est la vitalité d'un peuple.
Alors, pour terminer, ça passe très vite.
Ah ben, je suis bavard, ce
jour. Oui, mais ça passe très vite, évidemment. Vous écoute. En écho à ce que vous venez de dire, néanmoins, rassurez-nous, tout ne va pas si mal, parce que vous prenez des coups, certes, mais vous en donnez. Il y a une vitalité. Donc, on n'est quand même pas en Tunisie, en Hongrie, on est bien d'accord, il faut bien faire la part des choses. Vous êtes aujourd'hui, Edu Plenel, en mesure de faire votre travail.
Oui, mais on se bat pour ça. Ça n'est pas donné. J'ai vécu une époque au Monde, pendant 25 ans, où on était dans un journal de journalistes. On n'avait pas de fil à la patte. J'ai vécu une époque où vous n'aviez pas, vous, le service public. Ma position est connue là-dessus, et elle ne met pas en cause les personnes de débat sur le fait que l'exécutif et en fait un homme s'arroge le droit de nommer les patrons de l'audiovisuel public. Donc il y a eu des régressions. Donc je dis simplement, il y a des raisons de s'inquiéter, mais en même temps on se bat. Mais je pense qu'il faut se battre parce que ça n'est pas acquis, c'est fragile la démocratie. Et il peut y avoir un monde orwellien. Regardez la leçon de Ben Ali. On nous disait que c'était un modèle. Aujourd'hui, tout le monde emploie l'expression dictature que personne n'employait. Et on découvre que c'était en effet un monde orwellien. On avait l'impression d'une réalité, d'une façade, et derrière, c'était le revolver sur la table, voire sur la tempe, et c'était la corruption la pire. Donc les mots n'avaient plus de sens. Hein. Et ça, il faut faire très attention à ça. Donc, moi je cite aussi, puisqu'on parle de ces nonagénaires, Edgar Morin, qui sort un beau livre, La Voix, cite souvent un vers d'Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est en s'inquiétant qu'on crée l'espérance. C'est en voyant ce qui va mal, et c'est notre rôle, journaliste. Bien sûr qu'on parle des trains qui déraillent plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est ça qui nous met en mouvement. Donc moi, je ne dis pas c'est la catastrophe. Je dis juste, battons-nous. Si on ne se bat pas pour ce qui nous est cher, à ce moment-là, on risque un jour de le perdre.
C'est certain. Rappelez-nous du Plenel, lundi 7 février, Théâtre de la Colline.
Et une soirée, s'indigner, résister, créer, autour de Stéphane Hessel et de la révolution tunisienne.
Eh bien, merci beaucoup. Mediapart, évidemment, sur Internet. À très bientôt, monsieur Plenel.
Eh bien, merci à vous tous.
Merci beaucoup. Vous écoutez France Inter.
Vous êtes sur le 5-7 boulevard.
Alors, il est l'heure maintenant de notre round-up littéraire, toujours placé sous la protection